Bonjour à tous et bienvenue pour une première édition des Échos de l'innovation sur Graphite. Donc, je m'appelle Honoré, aujourd'hui je suis avec
Léo,
Jeanne,
Pierre,
Armand,
Laureline,
Ganaël,
Lucille,
Julia.
Aujourd'hui on a la parole pendant une heure pour une émission qui mêlera débat et science avec des invités, des rubriques qui tourneront autour d'un thème précis. Chaque rubrique peut faire rebondir sur des réactions et des avis. Donc tout le monde peut prendre la parole, le but étant de faire évoluer le débat sur toute l'émission.
Donc, cette semaine, on parle écologie et climat, mobilisation citoyenne. Au programme, des anecdotes scientifiques, de l'actualité, des interviews et aussi des débats sérieux, évidemment en toute amicalité.
Donc on va commencer tout de suite avec la rubrique Actu scientifique et technologie. Donc le premier titre de cette revue, c'est Ariane 6, tous les voyants sont au vert. En effet, un premier vol est prévu dans un an. Malgré quelques semaines de retard sur les plannings initiaux, le lanceur Ariane 6 sera prêt pour son vol inaugural. Initialement prévu en juillet 2020, il a été décalé au mois de septembre. Après une revue de conception détaillée réussie, le développement du futur lanceur européen Ariane 6 est donc entré dans sa dernière ligne droite. André Hubert-Roussel, le président exécutif du groupe, a déclaré, je cite, « Sa conception est maintenant validée » et tous les choix permettant de donner à ce lanceur l'ensemble des performances attendues en termes de coûts de fabrication, de fiabilité et de polyvalence sont finalisés. Côté motorisation, les trois moteurs du lanceur sont également prêts. Le Vulcan 2.1, qui propulsera l'étage principal d'Ariane 6, et le moteur Vinci de l'étage supérieur ont terminé leurs tests de qualification. Ce qui signifie que les tests combinés peuvent maintenant commencer. On attend donc avec impatience le lancement de cette fusée, véritable prouesse scientifique accomplie par la crème des ingénieurs français. En parlant de fusée, on passe tout de suite au deuxième titre de cette rubrique et on va parler de SpaceX, la fameuse entreprise de Elon Musk. Ce dernier fait l'éloge de Starship et promet la Lune et Mars. En effet, SpaceX a terminé l'assemblage du prototype du futur système de transport spatial Starship et a profité de l'occasion pour faire le point sur l'état d'avancement de ce programme hors norme. Musk avait donné rendez-vous samedi dernier au pied du prototype MK1 où il a fait le show comme à son habitude et pour le plus grand bonheur des fans. Il a d'ailleurs célébré cet anniversaire mais aussi la fin de l'assemblage du MK1, l'un des deux prototypes du Starship. Pour l'occasion, un étage récupérable du Falcon 9 avait été mis à côté afin de faire une idée de la différence de taille entre les deux lanceurs. Ce MK1 devrait réaliser un premier vol d'essai dans quelques semaines et un vol orbital d'ici seulement 6 mois. Elon Musk a également annoncé que si tous les essais se déroulaient bien, un premier vol habité est prévu dans le courant de l'année 2021 et que le vol habité autour de la Lune du japonais Yuzaku Maezawa et sa bande d'artistes est toujours prévu pour 2023. On continue ensuite sur le thème de l'espace et de l'exploration spatiale avec ce troisième titre choc, de la vapeur d'eau détectée dans l'atmosphère d'une super-Terre, une première pour la communauté scientifique mondiale. Cette vapeur a été détectée dans l'atmosphère d'une exoplanète, mais cette fois-ci, la planète évolue dans la zone d'habitabilité de son étoile, ce qui rend cette découverte particulièrement excitante. Dit autrement, on a découvert de l'eau dans une planète potentiellement habitable. Il s'agit de l'étoile K2-18, une naine rouge à environ 110 années-lumière de nous, dans la constellation du Lion. C'est en fait une super-Terre découverte en 2015 par le télescope spatial Kepler de la NASA. À partir de données acquises par le télescope spatial Hubble en 2016 et 2017, deux équipes de chercheurs ont utilisé des algorithmes améliorés pour analyser la lumière filtrée par l'atmosphère de cette planète. Pour le moment, il est seulement question de vapeur d'eau dans l'atmosphère. En l'absence de modèles météorologiques plus poussés et si l'on s'appuie sur les données que nous disposons, il est très difficile de savoir si de l'eau à l'état liquide se trouve sur la surface de cette planète. Le calcul des quantités d'eau présentes dans l'atmosphère, comme le taux de la couverture nuageuse, est pour le moment impossible à faire. Sans transition, on passe ensuite au dernier titre d'actualité. Sur le campus de l'université Berkeley en Californie, des robots livreurs sont contrôlés à distance par des employés colombiens. Ressemblant à des petits cubes sur roulettes nous rappelant les petits droïdes de Star Wars, les KiwiBots arpentent depuis 2017 le campus de Berkeley en Californie. Une quarantaine d'entre eux livrent chaque jour des repas aux étudiants. Pour qu'ils ne causent aucun problème de circulation, l'entreprise KiwiBots a recours à des opérateurs qui les contrôlent à distance. Problème, ces salariés travaillent depuis la Colombie pour 2 $ de l'heure. Ils veillent à ce que les robots roulent sans danger d'un point à un autre. Il s'agit d'une nouvelle forme de travail précaire qui devrait se multiplier. D'ailleurs, la société a prévu de déployer ses services dans une douzaine d'autres campus aux USA. Enfin, du côté de la France, le Parisien explique que Franprix a annoncé qu'il voulait s'associer avec la start-up française Twinswheel conceptrice de droïdes de livraison, pour offrir plus de facilité à ses clients pour faire leurs courses dans leur supérette de quartier. C'est tout pour aujourd'hui, pour cette rubrique Actu scientifique et technologie. Je vais laisser l'antenne à Pierre et Léo qui vont nous parler de la rubrique Non, non, c'est non, refus technocritique.
Avec Léo, nous avons choisi de parler à chaque émission de personnes qui font la différence entre progrès technologique et progrès social, qui défendent que l'un n'implique pas forcément l'autre et qui se battent pour le refus d'un progrès technologique ou d'un projet nuisible pour notre société. Nous rappelons que nous autres citoyens avons aussi le pouvoir de dire non.
Donc aujourd'hui, nous avons choisi de parler d'Europa City. Alors Europa City, c'est 230 000 m² d'espace commercial, soit presque le double du plus grand centre commercial français, des cinémas, un parc d'attractions et une ferme urbaine. Mais c'est aussi 3,1 milliards d'euros d'investissement privé investis par Auchan et le groupe chinois Wanda. Le tout avec des panneaux solaires, des éoliennes et des canopées d'algues pour un site 100% autonome en énergie et accessible en transport en commun grâce à une gare dédiée de la future ligne 17 du métro sur la commune de Gonesse dans le Val d'Oise. C'est un projet exemplaire écologiquement et ayant à cœur la préservation de la biodiversité, à en croire ses promoteurs et les élus locaux.
En fait, Europa City a toujours su, depuis sa création, intégrer parfaitement les critiques qui lui sont faites pour persister, ce qui l'avait conduit à annuler son projet de piste de ski indoor. Mais voilà, pour le collectif pour le Triangle de Gonesse, qui lutte contre ce projet depuis le début, quelle que soit la forme que prendra le projet, qu'il possède ou non une ferme urbaine ou une station de ski, Europa City, c'est avant tout du béton. Et du béton sur 80 hectares des meilleures terres agricoles d'Île-de-France, qui ont la particularité de posséder 7 mètres de terre arable contre moins de 50 cm pour la moyenne des terres françaises. Un nouveau projet que ses promoteurs essaient de verdir autant qu'ils le peuvent, mais dont la nature profonde n'a jamais changé. Selon le collectif pour le Triangle de Gonesse, il s'agit d'un projet climaticide qui va détruire des terres qui pourraient permettre d'accroître l'autonomie alimentaire de l'Île-de-France. Le collectif pour le Triangle de Gonesse, en lien avec Notre-Dame-des-Landes, depuis le début de la lutte, revendique son statut de zone à défendre et s'oppose d'ores et déjà, par des manifestations toutes les deux semaines, des plantations de fleurs et des actions non violentes, à ce qui est le plus grand des grands projets inutiles du pays.
Donc, si on prend un cas plus général, on peut se demander pourquoi est-ce qu'il est important de s'autoriser à un refus de certains progrès technologiques. Si on ne s'autorise pas ce refus, on considère alors que la science a réponse à tout, qu'on ne peut pas contester ces avancées, mais en fait, il ne faut pas confondre progrès technique et progrès social. On peut prendre l'exemple assez extrême, c'est vrai, de la bombe nucléaire et plus généralement de l'énergie atomique. Évidemment, c'est un énorme progrès technologique, mais c'est aussi une technologie qui suscite beaucoup de questions éthiques quant à son utilisation. Donc oui, il faut discuter le progrès dans le but de l'ancrer dans les problématiques de la société et ne surtout pas dissocier les deux, sans quoi on risque d'oublier certains aspects importants. C'est donc notre droit et peut-être même notre devoir de refuser certaines avancées lorsqu'on pense qu'elle peut ne pas être bénéfique pour nos conditions de vie, les nôtres ou celles des autres d'ailleurs.
Merci Pierre et Léo. On va maintenant enchaîner avec la rubrique La science sous les radars qui nous sera présentée par Yolia. L'antenne est à toi.
Je vais vous parler d'un projet innovant qui est en cours de développement mais qui est encore pas très connu. Il s'agit des maisons géonefs. Il s'agit d'une habitation qui est respectueuse de l'environnement et qui est construite à bas coût à partir de matériaux de récupération et de recyclage, par exemple des pneus, des canettes, des bouteilles, des boîtes de conserve. Donc le but, c'est qu'elle soit autonome d'un point de vue énergétique et aussi qu'elle soit autosuffisante, donc en eau par exemple. Ça permet de limiter l'empreinte écologique et aussi de réutiliser des déchets et des matériaux naturels. Donc ça veut dire qu'il n'y a ni chauffage ni climatisation. Les maisons sont donc orientées face au sud avec des pièces en enfilade et des baies vitrées afin de capter la chaleur et la lumière du soleil. La toiture elle peut être recouverte de panneaux solaires orientés aussi au sud et la partie orientée au nord peut être végétalisée pour planter de la nourriture par exemple ou recouverte de récupérateurs d'eau de pluie. Ensuite l'eau elle peut être filtrée pour la douche ou la cuisine. Et enfin l'habitation est enterrée côté nord pour utiliser la masse thermique du sol et vitrée côté sud, comme je l'ai dit avant, pour capter la lumière et la chaleur. La première a été construite au Nouveau-Mexique, aux États-Unis, il y a plusieurs années, mais aujourd'hui, le projet s'est développé et il y a des habitations de ce type en France, au Québec, en Nouvelle-Zélande, aux États-Unis et encore dans d'autres pays du monde. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez regarder le film documentaire Garbage Warrior, qui est sorti en 2007 aux États-Unis et qui retrace la vie et le parcours de l'architecte qui a eu cette idée et qui a construit la première géonef. Il y a également une association française qui existe depuis 2011 qui s'appelle Habite ta Terre et qui réalise des chantiers participatifs pour construire des maisons de ce type. Et actuellement, il y en a un qui se déroule en Dordogne et au Sénégal.
Ok, merci beaucoup Lolia. Maintenant, on va passer au micro-trottoir qui a été réalisé par Lucille et Léo. Donc Lucille et Léo sont partis à la rencontre des Compiénois pour leur poser quelques questions. On écoute ça tout de suite.
Quelles actions pouvez-vous nous dire que vous faites au quotidien pour la planète ?
Bon, alors je dirais principalement le tri des déchets. Je pense j'utilise pas mal le vélo aussi. On a une voiture avec Pierre-Edouard, on a une 4L, mais on essaie d'utiliser un peu le moins possible parce que c'est une vieille voiture et qui pollue pas mal. Du coup, on utilise vraiment nos pieds ou notre vélo pour se déplacer. Et le tri des déchets, un compost aussi pour tout ce qui est déchets verts et c'est tout.
Très bien. Est-ce que le réchauffement climatique, puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, vous fait peur ?
Ouais, je pense que ça me fait peur, mais comme tout le monde, je pense, ou tout le monde qui s'y intéresse, en tout cas, ça met pas à l'aise, et c'est pour ça qu'on essaie de faire des petites actions au quotidien pour aider.
Est-ce que vous pensez qu'on peut attendre du gouvernement qu'il change la donne sur les questions écologiques, ou est-ce qu'on doit agir nous-mêmes ?
Je pense qu'il faut qu'on agisse nous-mêmes, mais il faut aussi espérer que le gouvernement change, parce qu'à notre échelle, on fera peut-être pas grand-chose, mais il faut quand même faire, faut quand même essayer, faut pas laisser faire les autres. Et espérer ou voter pour des gouvernements qui aideront la planète à l'avenir.
Et qu'est-ce que vous pensez des manifestations des jeunes et des marches pour le climat ?
Bah, en vrai, je trouve ça vraiment super, des très bonnes initiatives qui remuent les adultes et remuent les consciences. Et ça, c'est vraiment top pour...
Légitimeriez-vous des actes de violence, sabotage, destruction, actes illégaux contre des acteurs polluants pour défendre des causes ?
Alors, je suis assez mitigée. Je pense qu'on ne peut pas laisser faire ça.
Donc, est-ce que vous pensez qu'on est assez informé sur la nature de la pollution, le fonctionnement du réchauffement climatique, les données scientifiques, toutes ces choses-là ?
Je pense que si on ne va pas chercher l'information, on ne l'est pas. On n'est pas informé, mais on a moyen d'être informé. Au jour d'aujourd'hui, avec Internet, avec toutes les enquêtes,
Alors, nous sommes actuellement avec des manifestants... pour les coquelicots, le mouvement des coquelicots. Et donc, qu'est-ce que vous faites concrètement dans votre manifestation ?
En fait, on essaie d'attirer les gens vers les pages de pétitions pour qu'ils signent notre pétition et qu'on se fasse entendre.
Quel moyen d'action à l'échelle citoyenne est le plus efficace et adhérez-vous à une forme de boycott ?
Alors pour une manière pacifiste, le boycott, c'est ce qui se fait de mieux pour éviter les violences. Ne pas acheter aux grandes multinationales qui polluent, qui s'en foutent, qui crament les forêts, qui font pas mal de choses. Éviter de leur donner de l'argent, éviter de les supporter et retourner un moyen de consommation un peu plus précaire, genre à côté de la maison, à côté des petites boutiques, des petits commerces, et pour que les grandes multinationales, elles comprennent qui...
Ok, c'était le micro-trottoir. Maintenant, on va avoir l'occasion de réagir un peu sur ce qu'on vient d'entendre. Est-ce qu'il y a des réactions ?
On a une réaction de la part d'un de nos invités. Tu peux te présenter peut-être, Sanaël.
Bonjour, Ganaël, citoyen du Compiénois. Je suis professeur, je suis papa, et du coup, j'agis en tant que citoyen, on va dire. Je voulais réagir au micro-trottoir. Il y a une question intéressante concernant l'action citoyenne, l'action personnelle. Moi, je fais partie des gens qui se sentent responsables en tant que parent, prof, mais aussi en tant qu'individu sur Terre. Et je suis convaincu qu'il faille agir comme des coquelicots, justement, enfin comme des colibris ou des coquelicots. Mais en même temps, je pense que à un moment donné, on a besoin d'être relayé et on a besoin d'organiser les choses. Et donc, la mission du politique, c'est aussi d'aider les citoyens à organiser, des actions, une façon de vivre différente. Ça peut pas se faire uniquement tout seul, même si je pense que chacun on a l'impression d'agir positivement, de façon vertueuse. Il faut vraiment qu'on réorganise les choses et que les politiques nous aident à bien nous organiser tous ensemble de manière solidaire. Voilà.
On a aussi la chance d'avoir avec nous à l'antenne deux associations de l'UTC, donc Ingénieurs sans frontières et Compile en transition. Donc si vous voulez prendre la parole.
Bah, moi, je suis plutôt d'accord avec ce qui vient d'être dit. Après, c'est vrai que là-dessus, les actions collectives de chaque citoyen, c'est très utile. Le problème, c'est qu'il faut que ce soit vraiment collectif, quoi.
Je me permets d'intervenir. L'écologie, d'abord, c'est l'étude, c'est la science de la maison, quoi, la maison-terre. L'écologie à l'heure actuelle, c'est une gestion de nos richesses naturelles. Qui dit gestion dit économie. Ça peut pas être complètement séparé. Donc, encore une fois, oui, des actions très personnelles. Je pense que à l'échelle individuelle, on doit prendre ses responsabilités. C'est très important. Mais aussi à l'échelle d'une nation, qu'on ait des politiques qui nous qui nous booste, quoi. Voilà, donc je pense que ce micro-trottoir, il est intéressant parce qu'il montre bien qu'il y a des choses à faire à l'échelle individuelle, à l'échelle nationale. Voilà.
Merci beaucoup. Maintenant, c'est l'heure du débat. Donc, on a abordé quelques sujets clés, on a relevé quelques réactions et chacun a probablement un avis sur la question. Que se passe-t-il à l'UTC au niveau de l'écologie? Les choses bougent. Parlez-nous un peu de vos assos et de leur action, Armand et Laureline.
Du coup, je commence. Ouais, vas-y. Alors moi, il faut savoir que je suis une ingénieure sans frontières depuis un an. Donc je suis arrivée, un peu moins d'un an du coup. Mais je suis arrivée en février. Et depuis, j'ai aussi participé à un groupe, avec un groupe d'étudiants, on a monté Idées en UT. Donc, ingénierie durable dans les universités de technologie, donc qui comprennent l'UTC, l'Université de technologie de Compiègne, l'UTT, celle de Troyes, et l'UTBM, celle de Belfort-Montbéliard. Et là-dessus, on a monté une grande consultation. On a sondé tous les élèves de l'UTC et aussi les enseignants pour avoir leur avis sur la formation d'ingénieurs actuelle et qu'est-ce qu'ils aimeraient changer pour qu'elle soit plus en accord avec les enjeux contemporains. Et de ça, on a analysé toutes les réponses et travaillé sur un plan d'action pendant toute la première semaine de juillet. Et on a présenté tout ça au directeur au séminaire inter-UT de fin août, donc au directeur de l'UTC, l'UTT et l'UTBM. Et ça semble bien parti. Donc, c'est-à-dire que les directeurs sont d'accord avec ce qu'on a proposé. Et on espère que ça avancera dans le sens-là.
Ok. Je me présente aussi. Donc, moi, c'est Armand. Donc, je suis nouveau à l'UTC. Je viens d'arriver ce semestre-là. Et je suis rentré dans l'association donc, CET, Compiègne en transition, où je suis tout de suite devenu responsable donc, de la team Zéro Déchet. Donc, dans cette association, il y a plusieurs teams, donc, comme une team orientée compost, une team aussi orientée dans les ruches, pour mettre des ruches dans le jardin de Cacarotte, je crois bien. Il y a aussi une team récup, qui se charge de récupérer après les marchés les invendus pour faire une soupe à distribuer. Et donc... Moi, je peux parler de ma team. Donc, on s'occupe de sensibiliser les UTC1 et aussi les Compiénois autour du zéro déchet. Donc, comme faire ses propres, donc agir personnellement, comme faire ses propres produits d'entretien, produits hygiéniques et tout ça écologique. Donc, on va organiser au cours de ce semestre des ateliers pour apprendre cela et également des apéros d'échange autour du zéro déchet.
Merci Armand et Laureline. On va parler un peu du bilan carbone UTC aussi. On a eu un sondage récemment à l'UTC. Donc, qu'est-ce qu'on fait nous à l'UTC et est-ce que vous pensez que c'est assez? Donc, peut-on se contenter des éco-gestes comme le tri sélectif, éteindre la lumière et prendre des douches courtes?
Du coup, là, on a interviewé ce midi une personne qui s'est chargée du build de participer à une API, je crois, sur le bilan carbone de l'UTC. Donc, c'est une interview qu'on va vous passer tout de suite, qui va permettre d'éclairer un peu le débat et de voir concrètement l'UTC et l'écologie, qu'est-ce que c'est, à quel point est-ce qu'on a investi là-dedans du point de vue de l'administration, etc.
Et à l'UTC, qu'est-ce qui se passe ? Je suis actuellement avec Morgane, qui a participé à la réalisation du bilan carbone de l'UTC. Bonjour Morgane, comment est né ce projet ?
Donc notre projet s'inscrit dans le plan vert de l'UTC qui est obligatoire et donc c'est un bon prétexte pour mobiliser les étudiants en faisant le bilan carbone de leur établissement, c'est-à-dire identifier et quantifier les principaux postes d'émission de gaz à effet de serre.
Et comment avez-vous procédé ?
Alors c'est un processus qui est assez long et fastidieux, du coup on se répartit en plusieurs équipes et sur plusieurs mois. Donc une première équipe qui décrit comment va se passer l'étude, une deuxième qui la réalise concrètement, donc récupérer les données, faire les calculs. Et enfin la troisième équipe qui est la mienne, qui a pour but d'identifier les actions de réduction les plus efficaces, enfin pertinentes dans le cadre de l'UTC, et donc d'établir un bilan d'action personnalisé.
Et alors quel est le verdict ?
Le verdict, c'est que d'après nos estimations, l'UTC émet chaque année environ 17 306 tonnes de CO2 équivalent. Bon, on se doute que c'est beaucoup trop, mais pour mieux visualiser l'ampleur du nombre, il faut se dire que c'est l'équivalent d'environ 70 millions de kilomètres en voiture diesel, donc soit 1720 fois le périmètre de la Terre. Donc si on rapporte ça au nombre de personnes à l'UTC, ça fait plus de 4 tonnes de CO2 équivalent par personne. Ce qui est deux fois plus que le budget carbone individuel qui a été défini par l'accord de Paris. Donc ça, c'est pas bon du tout. Donc en gros, si on devait traduire tout ça, le fait d'être à l'UTC pendant un an, ça émet l'équivalent de ce que vous devriez normalement émettre au total en 2 ans, en prenant en compte la mobilité, le logement, l'alimentation, etc. Donc là, on voit bien qu'il est urgent d'agir.
En effet. Et alors, quels sont les pôles les plus émetteurs ?
Le grand vainqueur, sans trop d'étonnement, c'est la mobilité, avec un peu le fléau que sont la voiture au quotidien et l'avion pour les déplacements à l'étranger. Les bâtiments aussi, c'est un poste important, puisque produire le béton à la construction, ça émet beaucoup de carbone. Et enfin, la troisième place, c'est l'énergie, que ce soit l'électricité, mais surtout le chauffage, parce que ça nécessite la combustion de beaucoup d'énergie fossile et donc beaucoup d'émissions. Le bilan carbone est aussi intéressant parce qu'on se rend bien compte que certains postes comme l'alimentation, les déchets ou les objets sont finalement pas si importants par rapport à ces postes-là et donc ne sont pas une priorité dans les actions à faire.
Et alors justement, que pouvons-nous faire en tant qu'UTC1 pour limiter notre impact sur le bilan carbone ?
Si on regarde le premier poste d'émission qui est la mobilité, en tant qu'étudiant, on peut faire des actions très efficaces. Arrêter de faire le trajet PGBF en voiture, surtout qu'à Compiègne, on a la chance d'avoir tout un réseau de bus gratuits et le vélo, donc il faut vraiment en profiter. Pareil, si on habite à Compiègne, faire le trajet en vélo. Et puis après, quand on retourne chez ses parents, privilégier le plus possible le train. Mais en fait, le gros effort que l'on peut faire, c'est sur les semestres à l'étranger. Ça veut dire, quand on est en Europe, aller en train le plus possible. Et après, si on a besoin d'aller en avion à la destination, se questionner de est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller aussi loin pour apprendre ? Souvent, c'est plus une envie d'exotisme qu'un réel besoin d'apprentissage. Et on aurait très bien la possibilité de faire nos études dans une bonne école en Europe. Donc vraiment réfléchir à ça, et ça, ça appartient vraiment à l'étudiant de faire cette démarche. Et ça a vraiment un impact énorme.
Merci. Et alors, est-ce que la direction a mis en place des dispositifs pour améliorer ce bilan carbone ?
En réponse au bilan carbone, non, parce que pour l'instant, c'est un peu trop jeune. Enfin, c'est vraiment quelque chose qui a été fait le semestre dernier. Il y a déjà quelques actions qui ont été faites par l'établissement, mais pour l'instant, ce n'est pas encore très significatif. Et justement, le but de mon équipe, ça va être de formuler des actions, des recommandations à l'établissement. Et on espère qu'ils les prendront en compte, et ça, j'en doute pas. Vu l'ébullition qu'il y a autour des thématiques environnementales, surtout à l'UTC, je pense, les choses vont changer à l'avenir. Et j'ai hâte de voir ça.
Et maintenant que ce bilan carbone a été effectué, que comptez-vous faire par la suite ?
Là, on a la troisième équipe qui fait les actions de recommandation, mais peut-être il y en aura d'autres encore à l'avenir qui s'occuperont de suivre justement si ces recommandations sont suivies par l'établissement et surtout toujours plus perfectionner ce bilan carbone, aller toujours plus dans le détail pour voir quelles sont les actions les plus pertinentes. Et pour l'établissement, c'est très précieux dans sa démarche de développement durable. Et pour les étudiants, ça permet aussi beaucoup de se rendre compte de l'impact carbone qu'a notre vie. Et j'espère que ça continuera ainsi pour de nombreux élèves.
Merci beaucoup.
Ok, est-ce qu'on a des petites réactions par rapport à ce qu'on vient d'entendre ?
Oui, donc moi là j'interviens en tant que personne qui a organisé la Vélorution au mois de mars. Voilà, on est devant un problème. Tout à l'heure on parlait d'individualité, donc le choix des étudiants de faire des efforts en matière de mobilité. Donc ça, on voit bien que tous les étudiants sont d'accord, mais encore une fois qu'il faut le relais. On va parler des politiques en général, des maires, des collectivités, pour favoriser ces flux. Voilà, il y a des axes qui sont bien, il faut en profiter à Compiègne. Donc on peut facilement, on n'a pas beaucoup de dénivellation, on peut facilement rejoindre des axes, enfin des endroits différents sans trop se fatiguer, il n'y a pas trop de relief. Les pistes cyclables, c'est principalement aussi des pistes loisirs qui existent déjà. Maintenant, on peut s'interroger sur l'ensemble de la société et de se dire qu'avant d'être étudiant, on est aussi enfant, écolier. Et que voilà, moi, je travaille aussi là-dessus. Je me dis qu'il faut taper plus bas, pas plus haut, plus bas. Il faut s'interroger sur la manière dont on va pousser aussi les enfants à se rendre eux-mêmes à l'école et puis à leur favoriser l'accès et surtout les sécuriser. C'était le grand enjeu, c'est un gros enjeu de la manifestation que j'ai faite, c'était de réunir des familles et puis de dire on est des familles, on est des enfants, et on va à l'école et on va au boulot et on a besoin de... On veut bien faire l'effort, on veut être conforme au Grenelle de l'environnement, mais il faut vraiment que les pouvoirs publics nous aident. C'est pour ça que je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a une part de choix personnel, de prise de conscience personnelle, mais je pense que ça doit être urgemment relayé par nos élus. Voilà, les élus, j'ai envie de dire les élus AILUS, ces gens qui ont parachute en haut et dont on a envie qu'ils nous représentent, nous en bas. Voilà, merci.
Merci à toi. Avant de passer à la prochaine rubrique, on va faire une petite interlude musicale avec la petite marchande de porte-clés d'Orelsan.
Sa mère voulait attendre et la marier. Son père voulait la pendre ou la noyer. Un seul enfant par foyer. Il voulait un garçon, mais sa connasse de femme a fait le taf qu'à moitié. À la campagne, on a besoin d'hommes forts pour travailler. Pas d'une bouche à nourrir, pas d'une pisseuse bonne qu'à chialer. C'est presque impossible de vivre à trois. Une fille unique, c'est perdre son nom de famille. C'est la honte pour un villageois. Qu'est-ce qu'il pouvait faire d'un déchet humain? Lui éclater le crâne entre deux pierres, l'enterrer à côté du chien. Il partit emprunter une pelle chez son voisin, mais son voisin lui dit d'attendre. Il lui dit qu'il pourrait la vendre. Et la chance leur sourit. Un marchand leur proposa d'acheter l'enfant pour la vendre à des touristes. Ils l'ont lâché pour environ un tiers de SMIC français. Le soir de son départ, mélancolique, sa mère chantait. Elle chantait. Douze ans plus tard, la jeune fille dort tranquillement chez son hôte. Son réveil, c'est un grand coup de pied dans les côtes. Son petit-déj, c'est du pain à la vapeur et de l'eau. Puis direction la salle des machines pour rejoindre les autres. Elle s'est jamais faite adopter par de riches occidentaux. Son propriétaire l'a élevée, l'a gardée sous le manteau. Neuf dans le même endroit, sa chambre, une caisse en bois. À 8 ans, elle a décroché son premier emploi. Une sorte de garderie où on fabrique des shorts de foot. Avec ses mains en forme de pied à force de coudre. Avec sa colonne vertébrale en forme de voûte. 20 minutes de pause déjeuner, un peu de riz, un bol de soupe. Interdiction de parler, à peine le droit de faire des gestes. Elle doit garder la tête baissée pour s'adresser à ses chefs. Le bruit la hante au point qu'elle n'entend plus quand il s'arrête. Pour pas sombrer dans la folie, elle chante cette chanson dans sa tête. Elle chantait. De retour dans son village natal après 10 années, en quête d'un cocon familial, à la recherche de son passé. Finalement, son maître lui a appris qui elle était vraiment, juste avant qu'il aille finir sa vie dans les geôles du gouvernement. Son usine s'était faite démanteler discrètement, la presse n'étant pas autorisée à couvrir l'événement. Bref, la plupart des gens du village avaient levé le camp, parti loin, ouvrir des restaurants ou divers magasins de vêtements. Pour les rejoindre, elle traversa des océans, frôla la mort, laissant son destin voguer au gré des vents. Sans personne, sans argent, sans carte d'identité. De toute façon, elle avait même pas de nom, à part la mendiante bridée. Après avoir contracté presque toutes les maladies, elle atterrit miraculeusement à Paris. Je rentrais chez moi après le travail à la tombée de la nuit. Quand nos regards se sont croisés, elle s'est approchée et m'a dit
Excusez-moi monsieur, porte-clés, 2 euros.
Non désolé, j'ai rien sur moi. Bonne soirée. Et je l'entends encore chanter. Elle chantait. Elle chantait.
Magnifique cette petite chanson. Est-ce qu'on a des réactions maintenant autour de la table par rapport à ce qu'on vient d'écouter ?
Moi, je voulais aussi réagir à propos des transports, mais du coup, plus quand Morgane parlait de voyager à l'étranger, d'étudier à l'étranger. Parce que personnellement, moi, je suis pour voyager et découvrir une autre culture. Et c'est vrai que de nos jours, on voyage tellement plus vite. En fait, c'est pas qu'on voyage plus vite, c'est qu'on voyage plus souvent, du coup, et que c'est pas forcément ça qui est le plus pertinent et le plus intéressant. Et donc, c'est pour ça que nous, avec le groupe, donc du coup, là, je parle plus avec mon groupe de réflexion ingénierie durable en UT plutôt qu'avec Ingénieurs sans frontières. Mais on s'était posé la question de plutôt voir le trajet comme un voyage en lui-même. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre un avion pour 3 heures, on y va en train ou en bus, et du coup, ça prend plus de temps, mais on découvre autre chose, c'est une expérience à part entière. Et ça apprend beaucoup la débrouillardise pour avoir essayé d'utiliser les bus pour voyager en Europe. C'est pas si simple que ça. D'ailleurs, on se rend compte qu'il n'y a quasiment plus de train. Et je trouve que ça peut être vraiment valorisant niveau interculturel aussi, parce qu'on est beaucoup plus obligé de communiquer avec les gens pour se retrouver dans d'autres langues aussi. Et moi, je pense que c'est vraiment quelque chose à valoriser et qu'on devrait plus réfléchir de nos jours, de voir le transport comme un voyage à part entière.
Je me permets de rebondir. Ouais, je trouve que c'est intéressant cette remarque. Ma femme, qui est une ancienne UTCN et qui a aussi beaucoup voyagé, elle s'est aussi forgée autour de ça. Elle est allée à La Réunion, elle a travaillé là-bas. Ça l'a ouvert énormément. Donc, on dit les voyages forment la jeunesse, mais c'est pas faux. Moi, j'aime bien cette diversité dans sa tête grâce au voyage. Et elle a pu en profiter. C'est une vraie chance. Mais peut-être que là aussi, tu as raison, je pense que c'est aussi l'occasion de repenser sa manière de vivre sur Terre, sa manière de repenser ses loisirs, sa manière de repenser ses voyages. Et peut-être d'être plus créatif à ce niveau-là. Et puis peut-être de délaisser d'une certaine façon le confort de l'avion. Et voilà, c'est peut-être aussi une occasion pour votre génération, les générations futures, de s'envisager autrement. Voilà. Voilà, c'était une petite remarque comme ça.
Merci beaucoup. Du coup, si vous le voulez bien, on va passer à la prochaine rubrique. Donc, c'est La Parole est à, qui nous sera présentée par Pierre.
Donc, aujourd'hui, on a choisi de donner la parole à Ivan Illich. Donc, c'est un penseur de l'écologie politique, assez critique de la société industrielle, dont les idées ont inspiré un grand nombre de personnes qu'on voit aujourd'hui se réapproprier dans leur quotidien. Donc ce que notre auteur considère comme une innovation technologique majeure, le vélo. Beaucoup de gens appliquent ses pensées en utilisant le vélo dans leur quotidien. Donc c'est quelqu'un qui s'est beaucoup insurgé contre le mode de vie industriel, toujours plus gourmand en énergie et en vitesse, et cela au détriment de la liberté et de l'équité. Donc il dit que plus il y a d'équité, plus il y a d'énergie dans une société, moins elle est répartie équitablement, et qu'il ne faut surtout pas confondre le bien-être et l'abondance énergétique. Ce n'est pas du tout deux choses qui sont liées. Donc au-delà du seuil de l'énergie métabolique, c'est-à-dire dès qu'on dépasse une certaine vitesse, avec des voitures qui vont plus vite, des avions ou des TGV, on rentre dans une ère où la technologie est reine. Donc à l'époque où Illich écrit, un Américain moyen consacre environ 1600 heures par an de travail juste pour sa voiture. Donc pour l'acheter, pour la payer, pour payer le carburant, pour le péage, pour l'entretien et les réparations. Et dans ce calcul, ils ne sont pas pris en compte les accidents et le temps passé à l'hôpital en cas de problème. Donc ça représente 4 heures par jour de travail dédié uniquement à sa voiture qui, paradoxalement, sert parfois à aller travailler. Et en plus, plus on augmente la vitesse d'un véhicule, plus son coût, celui de son carburant et celui des infrastructures, augmente. Donc par exemple, pour le TGV, une voie TGV, ça coûte beaucoup plus cher qu'une voie intercité, qu'une voie TER classique. Donc pour Illich, autoriser des transports à vitesse plus grande que l'énergie métabolique ou l'énergie à la basse vitesse, c'est donner un prix au temps. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'un PDG vaut plus cher, que le temps d'un PDG vaut plus cher que le temps d'un simple opérateur industriel qui devra travailler un grand nombre d'heures par semaine pour entretenir sa voiture ou se payer un billet d'avion. Donc, Illich nous dit, hein, dis-moi à quelle vitesse tu te déplaces, je te dirai qui tu es. Alors qu'à pied ou en vélo, tout le monde est sur un pied d'égalité et dédie la même part de travail quotidien à son transport. Parce que jusqu'à aujourd'hui, en vélo, en tout cas d'occasion ou chez Véloc, l'association de réparation et de location des vélos à l'UTC, ça coûte pas très cher. En plus de cette notion d'équité, une société fonctionnant avec beaucoup d'énergie et de vitesse perd beaucoup en liberté. Si on augmente l'apport énergétique dans les transports, plus de gens se déplacent plus vite et plus loin. Et il devient possible de travailler à Paris en habitant à Nancy, et cela crée une énorme dépendance de l'individu à la technologie. Il faut suivre les contraintes du réseau, y compris géographiquement. Impossible de choisir son itinéraire pour aller vite en voiture, il faut passer par l'autoroute. En TGV, on ne peut pas aller ailleurs que dans les grandes villes desservies par les voies TGV. On adapte l'homme à l'offre de transport, et le transport fait de l'homme un éternel absent, toujours éloigné de son lieu de destination, incapable de s'y rendre par ses propres moyens, et pourtant obligé de s'y rendre. Plus d'énergie et de vitesse n'amène donc que moins de liberté et d'équité. Si Illich voulait continuer de nous achever, nous, la civilisation de la Tesla, de l'Hyperloop, de l'avion et du TGV, il nous dirait sûrement que le vélo est 3 fois plus rapide que la marche et consomme 5 fois moins d'énergie grâce au roulement à billes, ce qui rend l'homme plus efficace que toutes les machines et tous les animaux. Pour faire traverser un pont à 40 000 personnes en une heure, il faut 2 voies ferrées si on utilise le train, une autoroute à 12 voies si on utilise la voiture, une seule voie pour les vélos. Le vélo n'a pas besoin de bétoniser les espaces pour accéder à de nouvelles destinations. Dans un monde avec quelques véhicules à moteur allant peu vite et des vélos, les cyclistes deviennent maîtres de leur propre mobilité sans empiéter sur celle des autres.
Alors, puisqu'on parle de vélo, on a une question pour toi, Ganaël. On te croise souvent dans les rues de Compiègne avec ton triporteur et tes enfants dedans. Alors, quel est ton engagement écologique et quelle place y trouve le vélo ?
C'est pas vraiment un engagement purement écologique, on va dire. C'est plutôt du bon sens. L'idée, c'est de se dire qu'on habite en ville et que dans une ville où il y a quand même peu de relief, où on a les écoles à proximité, les commerces à proximité, on peut se déplacer facilement à vélo. Voilà, c'est bon pour la santé, c'est bon pour la convivialité aussi, parce que ça permet à mes enfants de voir des gens, de discuter avec, de les ouvrir au monde. Et il n'y a pas besoin de prendre l'avion pour ça. Je pense qu'il faut aller au marché, on peut voir plein de gens différents. Et voilà, donc c'est pas tant un aspect écolo qu'un aspect bon sens qui rejoint des idéaux écolos. Voilà, et je voudrais revenir sur ce Illich. C'est intéressant ces réflexions, mais je les trouve un petit peu archaïques et un peu extrêmes. Il y a des fois, j'ai un petit peu peur qu'on tombe un petit peu dans le fascisme écologique. Je pense que c'est important d'intégrer un certain nombre de choses. Il ne faut pas non plus être dans l'extrême. On est quand même Nous, on a à réfléchir sur le fait que, en l'espace d'un siècle seulement, on a fait des progrès énormes dont on a bien profité, notamment en matière de médecine, en matière de plein de choses. Que j'y vois pas toujours un aspect pervers. Mais le problème, je trouve, et là il le souligne bien, Illich, c'est quand même qu'on a un problème, on a une inaptitude à la modération. On n'arrive pas à se modérer, on n'arrive pas à adapter nos modes de transport à nos lieux. C'est ça le problème. C'est pas tant le fait qu'il y ait la voiture. Quand vous prenez des vieux à Marny et Compiègne, des vieux ou des jeunes qui se promènent en voiture juste pour le loisir, ça paraît aberrant. Enfin, moi, même pas du point de vue écolo, mais ça me paraît aberrant. Voilà. Alors que moi, j'essaie d'éduquer mes enfants à la modération, au choix, au bon choix. Moi, j'ai fait un peu de pilotage automobile. J'ai aussi été passionné de voiture. Pour autant, on n'est pas fait que de ça. On peut s'adapter à notre époque. On peut s'adapter au temps. Et puis, on peut essayer de continuer à être moderne. Mais la modernité, c'est pas forcément technologique. Ça peut être aussi sur son vélo. Voilà. Je pense qu'il faut pas tomber non plus dans l'écroulogie, c'est-à-dire le fait que tout s'écroule, machin, et que d'un seul coup, il faut aller cultiver ses carottes. Je crois qu'il faut vraiment avoir une réflexion commune, mesurée, et puis prendre acte de ces lectures. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
Merci, c'est beau ce que tu as dit, la modernité, c'est pas que rouler dans sa grosse voiture, mais voilà. Aussi être sur son vélo, c'est important, surtout à notre époque. Et tu avais également organisé une vélorution dans Compiègne.
Oui.
Alors raconte-nous un peu comment ça s'est passé.
C'est tout simple. En fait, j'ai éprouvé un peu les rues de Marny, de Compiègne, de l'Arc, avec mes enfants. Tantôt en triporteur, tantôt en vélo individuel. Mais mes enfants se sont mis très tôt à faire du vélo. Et puis, on a éprouvé des difficultés à se déplacer. On n'était pas forcément bien accueillis, ni sur les trottoirs. Je tiens à préciser que quand on est papa et qu'on a des enfants de moins de 8 ans, on peut se promener sur les trottoirs en vélo. Et malgré tout, le pot de chou a été bien accueilli. Voilà, bon. Les automobilistes sont dérangés. Donc je peux le comprendre. On essaie toujours de faire attention aux artisans, à ceux qui travaillent. L'idée, ce n'est pas de se gêner, c'est de partager la route, c'est d'être ensemble. Mais moi, j'ai cet esprit de partage, mais je ne l'ai pas ressenti sur la route ni sur les trottoirs. Donc j'ai décidé d'organiser une petite manif familiale conviviale à laquelle se sont joints pas mal d'élus. L'idée c'était d'en appeler au partage des voix, on va dire, et puis peut-être à faire réfléchir les pouvoirs publics sur l'impact de la voiture en ville, l'impact sur tout, sur les modes de vie, sur la santé. Ça fait quelques mois maintenant que ça a été fait. Il y a eu quelques réactions. Ça a déclenché des réflexions. J'ai l'impression qu'on a encore du mal à voir les effets. Il y a pas mal de pistes cyclables qui se mettent en place, mais ce sont des pistes cyclables. Beaucoup ce sont des pistes cyclables loisirs, on va dire. Mais on a encore du mal à favoriser vraiment à Compiègne un accès double sens des vélos, par exemple. Ça, c'est encore compliqué. Voilà. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. On devrait pouvoir aller bosser et les enfants devraient pouvoir aller en ville en toute sécurité sans avoir peur. Et ce n'est pas encore le cas. Voilà. Je pense que la voiture, c'est... Moi, je suis pour la voiture quand on en a besoin, quand on a des trajets à faire. Ça, c'est important. Mais quand on arrive en ville, comme dit la chanson, on devrait sentir que c'est un espace partagé et que tout le monde est en sécurité et que tout le monde doit faire attention aux autres. Ça devrait être un espace où on roule peu vite. Mais ça, encore une fois, beaucoup de gens sont encore attachés au confort de leur voiture et n'ont pas envie d'être dérangés. Voilà. Donc, je crois qu'il y a encore beaucoup de travail à faire. Et puis, je voudrais simplement dire un truc, c'est que cette manif, elle a montré qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme. Il y a beaucoup de gens qui étaient là et qui, qui, qui montrait cette envie de vouloir vivre dans une ville où on partage mieux les voix, quoi. Je pense que les pouvoirs publics ont à entendre ça, quoi. Je parle, j'évoque là les municipales bientôt, donc c'est peut-être aussi l'occasion pas faire preuve d'égologie ou d'égocentrisme ou d'écocentrisme plutôt, mais non, vraiment d'offrir aux citoyens d'offrir cette possibilité de se sentir mieux en ville. Voilà. Merci.
Merci à toi. Donc sinon, beaucoup d'actions des associations de l'UTC ont eu pour objectif la sensibilisation des étudiants et de l'administration. Est-ce que vous, autour de cette table, vous sentez un changement de leur part ? Est-ce qu'il y a une limite à la sensibilisation ? Est-ce qu'il ne faudrait pas passer à d'autres modes d'action, peut-être ?
Moi, pour ma part, pour être depuis 2 ans et demi à l'UTC, j'ai vu énormément de changements, notamment quand je suis rentrée de stage, j'ai vu qu'il y avait une semaine du développement durable, j'ai vu qu'il y avait un forum pour l'ingénierie durable. Donc il y a beaucoup de choses qui changent. Malheureusement, c'est quasiment toujours les étudiants qui prennent les initiatives. Alors, pour du coup avoir discuté avec les enseignants et le personnel, on sait qu'eux, ils ont beaucoup de freins. Contrairement à nous, ils ne peuvent pas toujours prendre parti de certaines choses. Mais c'est vrai qu'il faudrait que ce ne soit pas toujours que l'initiative des étudiants et que les choses bougent, que ce soit porté par tout le monde et qu'il y ait de la communication entre le personnel, les étudiants et les professeurs.
Donc, moi, pour ma part, c'est assez récent que je sois à l'UTC, donc je n'ai pas pu voir assez de comment c'était avant par rapport à maintenant, mais je vois qu'il y a énormément de sensibilisation, c'est vrai, c'est vrai que peut-être on devrait passer à un autre stade, parce que je vois énormément d'amis autour de moi qui, malgré toute cette sensibilisation, sont au courant de ce qui se passe, mais n'agissent pas forcément, parce qu'ils ne sont pas plus engagés que ça, même s'ils sont au courant.
Et sinon, est-ce que vous pensez pas, n'est-il pas paradoxal d'être ici à parler d'écologie alors que nous sommes dans une école d'ingénieurs qui forme et qui a des partenaires dans l'industrie ? Une industrie qui est largement pointée du doigt dans sa contribution au réchauffement climatique.
Alors du coup, là, j'ai peut-être parlé au nom d'Ingénieurs sans frontières, enfin. Nous, c'est vrai que l'association Ingénieurs sans frontières, le but, c'est de dire que la technique n'est pas neutre et que le but, c'est qu'elle ait un impact positif sur la société et que dans ce cas-là, il faut en faire bon usage puisque... elle n'est pas neutre. en tant qu'ingénieur, c'est vrai qu'à l'UTC, on a des partenariats qui ne sont pas forcément les plus tournés vers l'écologie. On en a discuté avec l'administration qui disent qu'eux, en fait, par exemple, pendant les forums métiers, où, je sais que de midi à 14h, en général, parfois, ils invitent des entreprises. Souvent, c'est des anciens élèves. Souvent, c'est des entreprises qui se proposent. Et donc, eux, ils acceptent, et qu'ils seraient prêts si on donne une directive, par exemple, privilégier les entreprises qui ont une vision beaucoup plus écologique. Ils seraient prêts à plus prospecter les entreprises qui correspondent à ces critères ou à refuser les entreprises qui ne répondent pas aux critères ou alors faire une charte. Et si une entreprise veut faire un amphimétier à l'UTC, il faudrait qu'ils répondent à cette charte.
Oui. Voilà, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, parce que, ça, je pense pas que l'innovation ou même l'industrie soit totalement contraire aux actions, au changement climatique, mais bien sûr, il y a une orientation, il y a certaines, il faut faire un choix des industries, et peut-être qu'on peut en prendre certaines, quoi.
Excusez-moi, je pense qu'il ne faut pas non plus stigmatiser à tout prix la chimie. La vie est chimique, hein, de toute façon, il ne faut pas oublier. Je parle au nom de ma femme, là, qui est ingénieure. Je crois qu'il ne faut pas stigmatiser. Je pense qu'on est capable aussi de renverser les choses et puis de créer des systèmes industriels, techniques, qui sont vertueux. Même si tout n'est pas vertueux, la chirurgie, la médecine, c'est pas vertueux. C'est pas toujours vertueux, en tout cas. On manipule du vivant, on manipule des matières. Voilà, c'est aussi inhérent à notre capacité à inventer, à innover. Donc, ce qu'il faut maintenant, c'est être capable d'avoir un regard propre sur nos rejets, sur la façon dont on gère toutes ces matières. Je suis en train de penser à des choses toutes bêtes. Hein. Moi, dans le civil, avec des amis, on a fondé une asso qui s'appelle les Co-Triporteurs. C'est une asso pour essayer d'aider les collectivités, les entreprises à mieux jeter en fait des matières qui sont jetées à la poubelle et qui pourraient être recyclées. Et on réfléchit à ça tout le temps. On se dit que il suffit de boucler les boucles. Par exemple. Je vous donne l'exemple d'un stylo, un stylo Bic. Bic est une grosse boîte qui paye à hauteur de millions, apparemment, qui finance TerraCycle. TerraCycle, qui est une boîte américaine qui permet de recycler les stylos. Le problème, c'est que vous, quand vous utilisez un stylo, c'est que la plupart du temps, quand il est fini, vous le mettez à la poubelle. Ce stylo va à l'enfouissage ou va être brûlé. C'est pas génialement écologique. Or, ça, on est capable de le récupérer, de le recycler et de faire du mobilier urbain. Donc, en fait, on est capable de fabriquer avec des hydrocarbures du plastique, on est capable de l'utiliser, de le modifier, de le récupérer, de le réutiliser. On est capable, dans plein d'autres domaines, d'être propre. Le truc, c'est qu'il faut que les systèmes s'organisent. Et voilà. Et on peut continuer à être innovant, à être moderne, et tout en ayant, entre guillemets, la conscience tranquille, même si on n'est jamais propre à 100%, ça c'est sûr. Mais voilà, je trouve que c'est intéressant d'avoir ces réflexions-là aussi. Voilà. Et autre chose, je m'occupe de vélos un petit peu aussi. Je répare des vélos, je recycle des vieux vélos, comme on le fait à l'UTC. Je trouve ça intéressant aussi de se dire, la technique, c'est aussi la récup. Récupérer des techniques, des objets techniques, les faire revivre. Voilà, c'est de la technique, c'est de la science. Et c'est écolo. Voilà, donc je crois que trop souvent, on essaie de créer des incompatibilités ou des oppositions entre les systèmes naturels, les systèmes techniques. Mais voilà, je pense qu'il n'y a que les humains pour faire la distinction. Je pense qu'on peut réconcilier tout le monde, en fait, je pense. Voilà. À vous.
Ok, merci beaucoup. Une dernière question, peut-être. Alors, ne serait-il pas également important de réaliser la contribution des différentes technologies dans la pollution de l'environnement ? Par exemple, dans le numérique, le nombre de données en circulation sur Internet est multiplié par 2 tous les ans, et on estime qu'en 2030, il consommera la moitié de l'énergie mondiale, c'est-à-dire 10 milliards de mails par heure, 15 centrales nucléaires dans le monde juste pour ça.
Oui, à propos de ça, c'est vrai que on voit souvent qu'aujourd'hui, par exemple, les factures sont remplacées par des mails, parce que, une grande partie des personnes, on se rend pas compte de ce qu'il y a derrière, que c'est dans des serveurs qui utilisent de l'énergie et qui double, qui augmente à chaque fois. Et je pense que c'est sur ça qu'il faut travailler, la sensibilisation, à savoir ce qu'il y a derrière, quand on clique sur le bouton de recherche Google ou un autre site de recherche. Mais voilà.
Non, moi, je suis embêté parce qu'en tant que prof, je m'étais dit, ça fait plus de 10 ans que j'ai arrêté de faire des photocopies. Je me suis dit, avec l'arrivée du numérique, on va pouvoir stocker des idées, des images, des trucs, sans avoir se promener qu'une clé USB, sans être obligé d'imprimer à tout va. Puis je me rends compte autour de moi que dans les administrations, partout, on a encore fort besoin du papier. Et moi, je vois, dans les administrations, on voit bien, c'est une masse considérable. Et puis, le problème aussi, c'est effectivement d'utiliser les serveurs. Pareil, ça pollue également. Donc, on est un peu je suis un peu, je croyais faire bon usage. Enfin, il y a quelques années, je me disais, moi, pas de souci, quoi, j'utilise l'ordinateur, donc j'ai pas à m'inquiéter. Mais en réalité, ben oui, effectivement, je fais tourner des serveurs aussi, donc on est toujours. Voilà, on est toujours un peu pervers. Sinon, je voulais dire autre chose. Il y a un truc, ça, moi, les serveurs, ça me fait penser à mes copains. J'ai tout un tas de personnes qui sont très attachées, comme les UTC1, à l'écologie, à l'environnement, et qui communiquent beaucoup. Ils ont besoin de communiquer, ça les rassure et ça leur permet d'échanger. Et surtout de véhiculer les idées qui sont les leurs. Souvent, les idées, ils se les véhiculent entre eux. Et il y a une vraie question à se poser, c'est effectivement quel est le bénéfice en fait de toutes ces communications qu'on fait entre soi pour se réunir, pour dire tiens, on va faire telle action. Je pense qu'il y a un vrai bilan, pas carbone, mais un bilan serveur à faire. Est-ce que vraiment cette communication elle est efficace? Est-ce que malgré tous ces systèmes qui sont super super fiables, ces réseaux sociaux et tout ça, est-ce que vraiment ça améliore la vie et ça améliore la communication? Parce que à part se convaincre soi-même entre nous des bienfaits de l'écologie, parfois on se rend compte qu'on tourne un peu en rond. Voilà, c'est juste la petite remarque que je fais. Voilà, je me pose moi-même et je m'inclus. Hein, je m'inclus évidemment dans toutes les remarques que j'ai faites. Je m'inclus. Je trouve que voilà, on est plein de paradoxes. Et voilà, c'est une vraie réflexion.
Merci beaucoup pour toutes ces réactions, pour avoir partagé votre avis avec nous. Juste avant de finir, on va passer à la dernière rubrique de cette édition des Écoles d'innovation, avec le bonnet d'âne.
C'est parti. Donc cette semaine, j'ai essayé de chercher un petit peu à qui le distribuer, parce qu'il y a pas mal de candidats. Et je voulais parler d'un truc français qui a lieu en ce moment. Vous avez peut-être entendu parler de la Convention citoyenne pour le climat. Donc le principe, en gros, c'est de tirer au sort 150 personnes, encadrées par un certain nombre de... des personnes pour encadrer, quoi. Et ces personnes ont pour but de trouver des solutions afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre de la France d'environ 40%, je crois, d'ici 2030, il me semble. Et donc d'ici fin janvier, on devrait avoir les fameuses solutions à mettre en place, qui sont pour la plupart déjà connues, mais c'est un détail. Et donc, j'ai regardé un petit peu par curiosité sur le site de la Convention citoyenne pour le climat, et pour regarder les 12 membres gouverneurs de la Convention. Et j'ai été un peu surprise de voir une certaine dame, Catherine Tissot-Coll, qui est en fait... alors, elle a des responsabilités assez importantes dans une entreprise qui s'appelle Eramet, qui n'est pas très connue de nom. On connaît beaucoup plus Total ou ExxonMobil. En revanche, Eramet est beaucoup plus anonyme, alors qu'en fait, c'est l'une des principales émettrices de gaz à effet de serre, et c'est une Française, et donc elle a pas mal de mines. Sa spécialité, c'est l'extraction de lithium, notamment de nickel aussi, et donc pour ça, ils ont des mines un peu partout dans le monde, pas mal de scandales. Je peux citer quelques-uns, l'Indonésie en 2010, où ils avaient des mines de nickel. Enfin, un projet de mine de nickel qui aurait nécessité de raser à peu près 50 000 hectares de forêt, et donc 46% de forêts protégées. Un autre scandale en Argentine où ils avaient pareil des projets de mine de lithium associés à Bolloré. C'est toujours des mises en danger des populations locales, du patrimoine biologique des territoires. Et pour finir, le meilleur exemple, c'est la Nouvelle-Calédonie. Parce qu'on ne le sait pas souvent, mais la Nouvelle-Calédonie, elle compte à peu près un quart des ressources de nickel de la planète. Et elle est notamment exclue des accords de Paris et de Kyoto. Et ce n'est pas pour rien, puisque c'est une énorme émettrice de pollution et de gaz à effet de serre. Sauf que ça ramène de l'argent. Et le gouvernement français ne communique pas très souvent à propos de ça. Et en fait, la région est estimée, on estime qu'elle représente à peu près autant de CO2 que les pays du Golfe, et ou pareil les États-Unis. Donc en fait, ça la place parmi les premiers émetteurs de gaz à effet de serre de la planète. Et donc, pour revenir à cette personne, qui est notamment elle fait partie du MEDEF, donc le syndicat des patrons. Elle est aussi donc dans le conseil exécutif de Eramet depuis un certain moment. Et c'est une ancienne d'Areva, notamment. Et elle a pu déclarer, il me semble, l'année dernière, être favorable à l'extraction d'or en Guyane, qui avait fait pas mal de bruit. Elle en était même fière, parce qu'elle estimait que la réouverture des mines serait une bonne chose en France. Voilà, et donc je ne trouvais pas ça très adapté d'avoir une lobbyiste de ce genre de secteur dans une convention citoyenne. Et ça remet pour moi un peu en doute le bien fondé de cette convention et de ce qu'on peut en attendre. Voilà.
Merci beaucoup, Jinan. C'est déjà la fin de cette émission des écoles d'innovation. Donc, est-ce qu'on a peut-être une dernière réaction? Non, je ne sais pas. Non?
Une petite réaction concernant un petit coup de gueule, allez.
Allez,
un tout petit coup de gueule.
Pour le kiff.
Bon, ce n'est pas vraiment un coup de gueule, mais j'en appelle à mes pères, à mes amis citoyens. Voilà, tout à l'heure, je parlais du problème de la modération. Voilà, on va passer de la voiture bientôt au vélo électrique. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de fascination, encore une fois, pour la technologie. On parlait des mines de lithium, là, donc c'est intéressant. C'est de se dire que finalement, on a des travers, on les identifie, et pouf, on bascule dans un autre truc. C'est-à-dire que tout le monde veut son petit vélo électrique à 3000 balles qui va bien et tout. Tout le monde est content d'avoir un petit vélo confortable. En réalité, ce vélo électrique, il doit être utile pour les gens qui vont au boulot et qui vont assez loin. Il doit être utile pour les gens qui sont déficients, qui ont des difficultés physiques. Il doit être... voilà. Faut adapter l'outil aux besoins, quoi. Et je parle de besoins. Or, là, on est encore dans le confort. C'est-à-dire que voilà, on va acheter un vélo parce qu'on veut encore l'attrait technologique, la beauté du machin. Et je trouve que voilà, on rebascule encore dans un autre excès. Et ça j'ai un peu de mal à le comprendre, quoi. Et donc voilà, quand on va, quand on est détaillant, on veut monter une boîte de vente de vélos, on est obligé de vendre des vélos électriques, sinon on ne vend plus rien. Quand on est en montagne, si on veut louer des VTT, on est obligé de faire de la location de VTT électriques. Bon, voilà, donc on n'arrive jamais à s'affranchir des modes, quoi. Voilà, je pense que, je sais pas, il faudrait qu'on en appelle à la simplicité. Je dis pas que je suis simple, hein, mais ça serait pas mal de réfléchir à ça aussi, hein, parce que encore une fois, on retombe dans un délire commercial avec aussi des tarifs prohibitifs et puis des clients qui sont contents, quoi. Donc c'est un peu bizarre tout ça. Moi, voilà, pour clore cette émission écolo, je trouve que le vélo, oui, mais pas à n'importe quel prix, dans les deux sens du terme. Et puis voilà, réfléchissons à nos besoins, nos réels besoins. Enfin voilà, on peut être très heureux à faire du vélo sans avoir un moteur. Moi, j'ai un triporteur qui est excessivement lourd et qui n'a pas d'électricité, je le déplore. Mais bon, voilà, je persiste. Voilà, ça, j'espère que ça va maintenir en forme longtemps. Mais bon, voilà, c'est une vraie réflexion aussi à mener, ça. Hein, voilà, récupérer des vieux vélos, c'est bien. Voilà. Ça coûte pas cher, c'est sympa, vous avez le style. Voilà, merci beaucoup.
Vintage. Merci beaucoup à vous. Merci à tous les invités qui sont venus participer à cette émission. C'est déjà la fin de cette première édition des Écoles d'innovation. Donc, j'espère vous retrouver dans deux semaines. Merci d'avoir suivi l'émission. Et on va se quitter sur une petite musique. Voilà. Bon week-end et bonnes vacances à ceux qui sont en vacances la semaine prochaine. Merci. Do it.
do it. Do it.